Le journal Loïc Barrière. Deux membres du Hezbollah condamnés à perpétuité par le tribunal spécial pour le Liban. Ils avaient déjà été reconnus coupables de l'assassinat de Rafik Hariri en février 2005. Une vague de chaleur précoce en France, 12 départements ont été placés en vigilance rouge canicule. Les écoliers de ces départements pourront rester chez eux vendredi. Une grève générale aujourd'hui en Tunisie à l'appel de l'UGTT, un appel soutenu par plusieurs ONG françaises dont la Ligue des droits de l'homme. Entretien avec Patrick Baudouin, le président de la LDH. La visite en Ukraine du président Macron aux côtés du président du Conseil italien et du chancelier allemand. Ils ont soutenu l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Enfin, avant-dernier jour de la campagne des législatives, dans ce journal, nous écouterons Anaïs Broud, candidate de la majorité présidentielle en Seine-Saint-Denis. Le tribunal spécial des Nations Unies pour le Liban a condamné par contumace deux membres du Hezbollah à la prison à perpétuité pour l'assassinat en 2005 de 22 personnes, dont l'ancien premier ministre libanais Rafik Hariri. Il s'agit de Habib Meri et de Hossein Onaissi. En mars dernier, le tribunal les avait reconnus coupables de complot en vue de commettre un acte de terrorisme et de complicité d'homicide intentionnel. Le fils de Rafik Hariri, Saad Hariri, a réagi sur Twitter. L'ancien premier ministre souligne notamment que c'est la peine la plus sévère prévue par le tribunal. En France, 12 départements sont placés en alerte rouge canicule, c'est ce qu'a annoncé la première ministre Elisabeth Borne. Il s'agit de la Haute-Garonne, du Gers, du Tarn-et-Garonne, du Lot-et-Garonne, des Landes, de la Gironde, de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Vendée. Météo France prévoit des températures records. Dans ces départements, les écoliers pourront rester chez eux ce vendredi. Le mercure pourrait dépasser les 40 degrés dans l'ouest de la France ce vendredi. Les fortes températures pourraient se prolonger jusqu'au début de la semaine prochaine, notamment à l'est et au sud du pays. Une grève générale a eu lieu ce jeudi dans le secteur public et la fonction publique en Tunisie. L'UGTT demande l'annulation de la contribution sociale de solidarité de 1% et la finalisation des négociations concernant les agents du secteur public. Une grève observée notamment dans les transports. L'appel de l'UGTT a reçu le soutien de plusieurs associations en France, comme le droit au logement, le MRAP ou encore la Ligue des droits de l'homme. Entretien avec le nouveau président de la LDH, maître Patrick Baudouin, président d'honneur de la Fédération internationale des droits humains.
La situation dans le pays est malheureusement dans une dérive assez désastreuse, et en particulier depuis la décision du nouveau président Raïs Saleh de dissoudre le 25 juillet 2021 le gouvernement, les activités du Parlement. Enfin, on est passé d'un régime qui allait vers la démocratie dans un régime totalement autoritaire et qui ne peut que générer des contestations. Alors, le regard sur cette grève générale de l'UGTT, bien, il consiste à justement voir la gravité, hein, quand on est à l'extérieur de la situation tunisienne, quand on sait le poids que représente l'UGTT. Alors c'est certes une contestation sociale, bien sûr, puisqu'il s'agit d'un syndicat qui se trouve en opposition avec la politique économique et sociale de l'actuel président, qui conteste en particulier les difficultés de discussion et de négociation pour tout ce qui concerne la sphère de la fonction publique, mais cela va bien au-delà. C'est une contestation du pouvoir, son positionnement politique, des libertés et des droits qui sont gravement menacés, pour ne pas dire actuellement suspendus et anéantis, avec un projet de nouvelle constitution qui ne manque pas d'inquiéter, avec une décision récente totalement scandaleuse de pousser hors de leur fonction 57 magistrats. Donc c'est tout cet ensemble qui actuellement traduit la situation extrêmement critique de la Tunisie.
Le soutien de cette grève par la Ligue des droits de l'homme, c'est ainsi une forme de signal d'alarme de votre part ?
Oui, c'est un soutien. Alors il faut préciser que le soutien aux actions de contestation des mesures prises par le président tunisien et de sa politique n'est pas nouveau. La Ligue et la FIDH, que je représente également, ont eu l'occasion à plusieurs reprises de contester des mesures arbitraires, des mesures répressives prises par l'actuel pouvoir tunisien, qui vise en particulier, on va dire, au sens large, toute la société civile, les défenseurs des droits de l'homme, les opposants, les associations, les syndicats. Ce sont vraiment les libertés qui deviennent en péril, alors que la Tunisie avait évolué dans un sens qui permettait, malgré les difficultés économiques, sociales et autres, qui permettait d'aller vers une société démocratique, libérée. Que on pense toujours que la Tunisie est un des pays dans le Maghreb et le Maghreb qui a toutes les données pour pouvoir être vraiment un pays démocratique, moderne et socialement juste. Donc c'est cette critique d'un mouvement de régression considérable que porte la LDH par rapport au pouvoir tunisien, et donc en soutien total à cette grève de l'UGTT.
Et c'est donc un soutien à la transition démocratique qui avait été présentée comme étant exemplaire dans le monde arabe, cette transition démocratique en Tunisie.
Absolument, c'est la nécessité du retour à ce... Alors, tout n'avait pas été accompli, on le voit d'ailleurs, hélas, mais la nécessité du retour à des avancées pour une démocratie tunisienne forte et exemplaire dans le monde arabe.
Que répondriez-vous au soutien du président tunisien qui pourrait estimer que votre soutien serait une forme d'ingérence ?
Non, ça n'a rien à voir. C'est la réponse facile qui est toujours opposée par les dirigeants de pays extérieurs qui viennent dire « mais vous n'avez pas à vous ingérer ». Je ne suis pas certain que le président tunisien formulerait la même observation la LDH venait manifester son opposition à la politique du gouvernement algérien ou du gouvernement syrien ou de la Russie de M. Poutine ou des États-Unis ou des pays d'Amérique latine. Enfin, je veux dire, notre liberté, c'est la liberté d'apprécier, non pas de nous ingérer, mais de porter des appréciations sur les politiques qui peuvent être menées ici ou là dans le monde. C'est un monde globalisé, c'est un monde où tout citoyen du monde doit pouvoir donner son avis en toute indépendance sur une politique menée par un État. Et la LDH, comme la FIDH, comme toutes les associations de défense des droits de l'homme, ne défendent qu'un seul objectif. C'est pas une immixtion politique. C'est l'objectif de la défense des droits et des libertés dans le monde et dans n'importe quel pays. Donc dès lors que ces droits et libertés nous apparaissent menacés, remis en cause, eh bien nous nous prononçons en soutien de ceux qui, dans le pays concerné, militent pour la défense de ses droits et de ses libertés. C'est un mouvement de solidarité internationale.
Et vous êtes en contact aujourd'hui avec les ONG tunisiennes ?
Depuis longtemps, il y a des contacts entre la LDH et les ONG tunisiennes, au sein en particulier aussi pour ces organisations, pour celles qui en sont membres de la FIDH. Et notre combat, il n'est pas nouveau. Il remonte à bien loin depuis la création de la Ligue tunisienne des droits de l'homme en 1978. C'est un combat qui a été mené d'abord contre certains aspects de la politique du président Bourguiba, qui a été continué évidemment sous le régime de M. Ben Ali, qui a été ensuite de soutien quand on a vu une évolution démocratique et qui redevient aujourd'hui un positionnement critique face à la dérive sécuritaire et répressive de l'actuel pouvoir tunisien.
Maître Patrick Baudouin, président de la Ligue des droits de l'homme, au micro de François-Xavier de Calonne. Emmanuel Macron s'est rendu à Kiev en train ce jeudi. Le président français était aux côtés du chancelier allemand Olaf Scholz et du chef du gouvernement italien Mario Draghi. Emmanuel Macron a notamment été reçu par le président Zelensky. C'était la première visite en Ukraine de ces trois dirigeants européens depuis le début de l'invasion russe. À cette occasion, ils ont apporté leur soutien au statut de candidat de l'Ukraine à l'Union européenne. Avant dernier jour de campagne électorale, avant le second tour des élections législatives dimanche, entretien avec Anaïs Broud, candidate de la majorité présidentielle dans la deuxième circonscription de Seine-Saint-Denis. On l'écoute.
Au plan national, il y a quand même une abstention assez forte qui s'est exprimée. Moi, je reste confiante sur la capacité du président de la République à avoir une majorité. Après, effectivement, il va falloir se mobiliser fort ce dimanche pour permettre à Emmanuel Macron de pouvoir gouverner, appliquer son programme ces 5 prochaines années, parce que le risque auquel on s'expose face à l'entreprise de la NUPES, c'est quand même une politique de blocage, d'opposition systématique ces 5 prochaines années, qui serait particulièrement périlleuse dans un contexte international tendu où le pays a besoin d'être protégé et d'avancer.
Alors, en ce qui vous concerne, vous êtes candidate en Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous pouvez nous parler des résultats du premier tour? Vous êtes en ballotage défavorable.
Alors, effectivement, moi, je suis face à Stéphane Peu, face à la NUPES. Je suis heureuse qu'il puisse y avoir ce débat entre deux projets de société qui sont quand même très différents. Par exemple, pour ce second tour, moi, je suis la seule candidate à parler de sécurité qui n'apparaît pas dans la profession de foi de Stéphane Peu. La sécurité, c'est quand même une préoccupation première des habitants et qui s'exprime aussi, malheureusement, on l'a vu dans les résultats du premier tour, sur un score assez fort sur la circonscription du Front National et dans une moindre mesure de reconquête. Donc je pense qu'il faut parler sécurité et oser aussi avoir un discours de fermeté sur ces sujets. Nous, on défend doublement la présence des forces de l'ordre sur la voie publique et il est encore plus important dans notre département de la Seine-Saint-Denis de renforcer, d'augmenter le nombre de magistrats et de personnel de justice pour avoir une réponse pénale qui soit rapide et systématique. Parce qu'aujourd'hui, on a des personnes qui sont arrêtées pour des délits. Il n'y a pas de suite ensuite derrière parce que notre tribunal, notre justice n'a pas les moyens de donner ces suites. Il faut pouvoir effectivement sanctionner quand c'est nécessaire et mettre fin aussi à un certain laxisme qui s'est exprimé ces dernières années localement.
Alors ce deuxième tour aura lieu à l'issue d'une semaine caniculaire en France, notamment en Seine-Saint-Denis où on sait que les habitations ne sont pas toujours très bien isolées. Qu'est-ce que vous proposez en tant que responsable de La République En Marche justement pour lutter contre le réchauffement climatique?
Alors je vais vous parler d'abord très concrètement de la rénovation énergétique des logements. Effectivement, à Saint-Denis-Pierrefitte et Vitaneuse, on a énormément de logements qui sont encore considérés comme des passoires thermiques. Ça veut dire que l'hiver, c'est difficile à chauffer et que l'été, il fait du manque d'isolation, il fait très chaud. Le gouvernement a agi ces 5 dernières années grâce notamment à MaPrimeRénov, qui permet une aide financière substantielle pour justement faire des travaux d'isolation dans leur logement. C'est un dispositif qu'on va poursuivre pendant ces 5 prochaines années, pour justement mettre fin, réhabiliter tous ces logements qui sont des passoires thermiques. Sur la lutte contre le réchauffement climatique, il nous faut progressivement, et de toute façon un engagement a été pris en ce sens au niveau européen, mettre fin aux véhicules polluants. Ça va se faire progressivement en encourageant l'achat de véhicules électriques grâce à des primes ma préoccupation quand même, en tant que député, sera de faire en sorte que ce ne soit pas un frein à la mobilité, notamment pour les personnes les plus modestes qui n'ont pas forcément les moyens aujourd'hui d'acheter un véhicule propre, mais qui ont besoin d'une voiture pour aller travailler. Plus largement, l'écologie, l'environnement, il faut le penser dans toutes les politiques publiques. Il faut le penser à l'école, pour vraiment sensibiliser nos enfants dès le plus jeune âge à ces sujets. Il faut aussi avoir un discours davantage de fermeté auprès des entreprises et des industries polluantes, et encourager à l'inverse celles qui vont dans le sens de ce qu'on appelle une croissance verte, de cette transition écologique qu'on attend.
Alors la participation a été extrêmement faible en Seine-Saint-Denis au premier tour. Quel message souhaitez-vous adresser aux électeurs à la veille de ce second tour dimanche ?
Alors évidemment, mon message, c'est d'aller voter. Et c'est aussi un petit rappel, un rappel historique. Moi, je suis une femme. Il y a énormément de... Enfin, nos ancêtres... Des générations de femmes se sont battues pour qu'on ait justement le droit de vote, la possibilité de s'exprimer. À 100 000 personnes italiennes, il y a aussi des personnes qui sont sur le territoire depuis longtemps, qui aimeraient pouvoir voter, qui ne le peuvent pas. Je pense que quand on a la possibilité, quand on a ce droit de voter, de s'exprimer, on devrait l'utiliser encore plus dans un moment, encore une fois, aussi important, où le contexte international fait que voilà, on ne peut pas laisser les autres décider de quel sera l'avenir du pays pendant 5 ans. Et le seul choix à faire, à mon sens, pour protéger la France, pour faire avancer une ville et le département, c'est de donner à Emmanuel Macron une majorité solide à l'Assemblée nationale.
Anaïs Broud, candidate de la majorité présidentielle dans la deuxième circonscription de Seine-Saint-Denis. Enfin, l'Observatoire international des prisons appelle la France à mettre en œuvre un plan d'urgence pour en finir avec la surpopulation carcérale. Dans un rapport publié avec le soutien d'Amnesty International, l'association dresse un état des lieux sévère de l'état des prisons en France. Il y a 2 ans, Paris avait été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme pour les conditions indignes de détention dans les établissements pénitentiaires de l'Hexagone. Et si on en parlait ce soir à 19h et 23h, le sujet de l'émission Syrie, Russie, Libye, jusqu'où ira la Turquie ? Alexis Bachelet reçoit Jean-François Colosimo, historien et directeur des éditions du CERF, et Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS. Cette édition est terminée, merci d'être fidèle à Radio Orient.